Geneviève, bonsoir et bienvenue sur Radio Maria France.
Bonsoir Jérôme.
Voilà, on vous retrouve à nouveau, Geneviève, pour cette émission mensuelle. Alors, ce soir, vous allez nous parler d'une certaine, je crois, Émilie.
Sainte Émilie de Rhoda.
Sainte Émilie de Rhoda. Eh bien, Geneviève, on vous écoute alors pour connaître son histoire et sa sainteté.
Voilà, très bien. Mais avant de parler de Sainte Émilie de Rhoda, comme vous le savez bien, Jérôme, on traverse des temps quand même un petit peu difficiles.
Ah bon?
Je voulais vous parler de la sainte qu'on invoque pendant les épidémies. Est-ce que vous la connaissez?
Non, alors j'ai entendu récemment invoquer Saint Roch pour les épidémies, mais je ne connais pas non la
Oui.
sainte.
Mais une sainte, vous savez bien que moi, ce sont les femmes qui
Je
m'intéressent.
sais, oui.
Eh bien, elle s'appelle, ne riez pas, Sainte Corona.
Ah bon?
C'est pas extraordinaire?
C'est extraordinaire.
Eh bien, elle est en Italie, à Anzu, là où a eu lieu le premier cas de coronavirus. Moi, j'ai trouvé ça incroyable. Alors, je me suis dit qu'il faut qu'on la prie. Comme je parle tout le temps des femmes, je me suis dit, celle-là, elle est vraiment au chômage, parce que personne ne la connaît. Elle est pas tellement connue nulle part, hein, à part en Autriche. En fait, elle était née en Égypte en 160 à peu près, et elle est morte en Syrie en 177. Vous voyez, très, très jeune, hein. En fait, elle a été sous l'empereur, elle vivait sous l'empereur Marc Aurèle. Vous savez, celui dont on dit que c'était un philosophe, un modèle d'empereur philosophe éclairé. Eh bien, pas du tout, parce qu'il y a eu des persécutions chrétiennes absolument épouvantables. Et elle s'était insurgée de la torture qui avait été infligée à celui qui est devenu Saint Victor, qui était un ami de son époux, qui était aussi un officier de l'armée romaine. Et comme elle l'avait soutenu dans son martyre et qu'elle l'avait encouragé, qu'elle priait, elle a été arrêtée, elle a été torturée et elle a été attachée à deux palmiers qui étaient repliés, voyez. On les a repliés, on l'a attachée sur ces deux palmiers et puis ils ont coupé les liens pour qu'elle soit écartelée. Vous voyez l'horreur de son martyre, hein. Et elle a été évidemment déchiquetée, Victor a été décapité. Leurs ossements sont en Italie depuis le 9e siècle. Et vraiment, je crois qu'il faut qu'on l'appelle. Elle est fêtée le 14 mai, vous voyez, ça ne va pas être dans trop longtemps. Alors bien sûr, il y a eu Saint-Roch, on le connaît bien en Corse, surtout dans mon village, il y a une chapelle qui lui est dédiée et tous les ans, il y a une messe en août pour le célébrer. Il a guéri beaucoup de malades, mais je pense que Sainte Corona, qui n'est pas connue, et puis qui porte ce nom-là, ça, il faut quand même le faire, eh bien, il faut lui demander de l'aide. Voilà. Alors maintenant, on va revenir à Émilie de Rhoda, qui, elle, a vécu, est née en 1787 et est morte en 1852. Et si vous vous rappelez, parce que vous êtes très attentif, n'est-ce pas, Jérôme, les mois précédents, on a parlé de femmes extraordinaires. Alors, elles ont osé braver des interdits, elles ont osé tenir tête à des gens anti-religieux, ou plutôt très anti-chrétiens. Elles ont tenu tête aussi à des évêques et à des importants hommes d'église. Et elles ont contré beaucoup d'idées qui étaient véhiculées à leur époque. Elles ont eu du courage. Elles ont osé créer, osé affirmer leur foi en Christ. Et moi, c'est ça qui me plaît. Et quoi qu'on passe, quels que soient les événements qu'on traverse, quelles que soient les douleurs qu'on vit, eh bien, il faut que notre foi soit criante. Alors, vous verrez en écoutant la vie d'Émilie de Rhoda que toutes ces femmes ont une constante dans les fondations, éduquer les filles, parce qu'à l'époque, les filles, on ne les éduquait pas. Maintenant, c'est les deux qu'on n'éduque pas, mais enfin, ce n'est pas grave. Soigner les malades et s'occuper des pauvres. Je pense qu'elles sont d'actualité, ces femmes, hein. C'est pour ça qu'il faut qu'on secoue le ciel et qu'on les fasse nôtres, qu'on les fasse nos alliés. Alors, on va passer un petit moment avec Émilie. Vous allez voir, c'est une sainte de carême. Elle est née dans un château, évidemment, dans l'Aveyron, et elle a été immédiatement baptisée. Alors, comme les femmes précédentes dont je vous ai parlé, vous savez, Élisabeth Bichet des Âges, Marie de Jésus du Bourg, puis toutes les autres, les familles qui les entouraient ont été édifiantes. Alors ça, Je veux le dire et le redire parce qu'on n'arrête pas de parler de ces gens, les nobles qui étaient insupportables, qui étaient des buveurs de sang, qui faisaient du mal, les gens étaient comme des esclaves. Etc. Il y en avait, je ne vais pas dire, j'y étais pas, mais il y en avait forcément parce que la nature humaine, hélas, n'est pas très belle toujours. Mais c'était quand même, il y avait quand même beaucoup de familles qui étaient remplies de ces valeurs chrétiennes, remplies de ce désir de faire bien, de faire, de partager. Et il y avait une éducation qui était donnée dans ces familles, qui faisait, je dirais, une certaine joie, qui donnait une certaine joie. On remettait en ordre les choses. Bon, bien sûr, il y avait des biens, bien sûr, mais il y avait un esprit chrétien de charité, un esprit de partage et d'amour qui animait beaucoup de ces gens. Par exemple, le trisaïeul d'Émilie, donc, voyez, son arrière-grand-père, a donné sa fortune pour les pauvres dans un temps de famine. Bon, il était tellement aimé de la population, voire vénéré. Dans son village, on disait, c'est un dieu sur terre. Alors bon, c'était avec la simplicité des choses. Toute sa famille était riche. Bien sûr, elle était riche, mais elle était riche aussi de piété, de dévotion, de bonne éducation. Et j'ouvre une parenthèse. L'autre jour, en écoutant la radio, parce que là, en ce moment, alors que d'habitude, je n'écoute pas beaucoup ni radio ni télé, j'ai écouté, j'ai entendu que M. Pinault avait perdu 14 milliards d'euros. Bon, c'est énorme. Bon, c'est en bourse. Alors, on va me dire, oui, c'est qu'en bourse, etc. Mais ce sont des chiffres qui nous donnent le tournis. Et moi, je me dis, mais il aurait juste un peu partagé, juste un peu soulagé quelques misères. Mais ça aurait été extraordinaire, ça aurait été formidable. Ça m'a fait penser à ça. Voilà, je me suis dit, ben, il faut qu'on prie pour ces gens, pour qu'ils aient un bon coup du Saint-Esprit, qu'ils soient éclairés par l'esprit de charité. Je ferme la parenthèse. Bon, dans la famille de Rodin, il a été vécu beaucoup d'événements importants. Je vous disais, le grand-père qui donne sa fortune. Et puis la grand-mère, donc la génération en dessous, a été guérie de la variole par la Sainte Vierge. Ça, c'était aussi extraordinaire. Et elle a gardé, du coup, toute sa vie, une dévotion extraordinaire à la Sainte Vierge. Et du coup, elle a dit, je ne peux pas rester comme je suis. Donc, elle a aidé tout le temps les pauvres, les malades. Elle préparait des paniers, vous savez, de nourriture qu'elle allait porter. Et elle préparait aussi des onguents en apprenant l'utilité des plantes pour soulager les maux des gens qui étaient blessés, qui avaient des maladies. Vous savez, beaucoup de maladies de peau, il n'y avait pas une grande hygiène. Voilà. En revanche, alors là, c'est très étonnant, le papa d'Émilie n'était pas du tout branché dans le domaine de la foi. Ça, ce n'était pas son truc. Pourtant, c'était une famille chrétienne, il avait deux sœurs religieuses, tout le monde était dans ce domaine très, très tourné vers Dieu, mais pas lui. Mais il se comportait en homme de bien et il avait les valeurs chrétiennes. Et il a trouvé la foi à la fin de sa vie. Ça, c'est pour ça que vous allez voir comme Émilie est une fille de notre époque. Alors, il y a aussi une autre chose qui fait qu'elle est une fille de notre époque, c'est que l'éducation qu'elle a reçue nous fait penser aux méthodes montessoriennes. Vous vous rendez compte? Il y a quelques dizaines d'années quand même. Hein. Sa grand-mère et sa tante qui s'occupaient d'elle s'appliquaient à ne jamais la gronder. Ça ne veut pas dire qu'elles acquiesçaient à ce qu'elle faisait, mais elles lui montraient la faute pour qu'elle en prenne conscience. La même chose pour le travail. On ne lui disait pas « tu dois faire ça », mais il fallait que le travail fût fait, peu importait l'ordre d'exécution des tâches. C'est exactement les méthodes montessoriennes. On ne gronde pas, on ne punit pas, on fait prendre conscience de ce qu'on fait et on fait avancer les choses comme ça. Elle raconte comment, avec délice, elle a été amenée peu à peu à dompter les travers de son caractère juste par l'exercice d'une pédagogie extrêmement révolutionnaire à l'époque quand même. Ce n'était pas la même révolution que quelques années avant. Peu à peu, Émilie s'est formée à la vie de prière, de don. parce que ça lui était enseigné par des attitudes. Alors, on lui enseignait aussi des valeurs. Alors, des valeurs qui ne sont plus du tout au goût du jour, hein, mais je vais les dire quand même. Humilité, modestie, sens du travail. Mais je ne sais pas si vous vous rappelez, les autres femmes dont nous avons parlé tout au long de cette année ont eu ces mêmes valeurs, ce même sens de l'éducation par l'exemple. Elle apprend à aimer les pauvres, Émilie. Elle apprend à savoir se départir de ce qu'elle aime pour donner à ceux qui n'ont pas. Vous voyez, moi je trouve ça extraordinaire. On devrait s'en inspirer dans notre éducation. Apprendre le partage, mais à travers cela, à travers ce sens du partage, ce qui est appris, c'est le sens du don et le sens du sacrifice. Alors ce sont tout ça des mots qui ne sont plus à la mode. Mais le temps que nous vivons, ce que nous traversons en ce moment, je crois, va nous faire revenir à des choses beaucoup plus saines, beaucoup plus humaines. On va certainement regarder le monde d'une autre façon. Alors, Émilie, elle n'est pas, vous savez, comme on avait vu Élisabeth Bichet des Âges, sainte depuis son enfance, elle, ce n'était pas trop son truc. Hein. Elle communie avec joie à 11 ans, mais bon, elle communie, quoi, parce que c'est bien, quoi, il faut le faire. Bon, ce n'est pas une conversion extraordinaire, elle n'est pas transformée. Elle disait même, elle a raconté même, je comprenais tellement peu que je me suis surprise en faisant tourner mes doigts l'un dans l'autre en revenant de la Sainte Table. Donc ça, vous voyez, ça me plaît beaucoup parce que ça doit nous donner l'espérance, parce que lorsque nous voyons comme un échec les enfants qui, après toute une préparation du catéchisme, ne manifestent pas une dévotion particulière, on doit avoir de l'espérance. Alors je dis « courage les dames catéchistes ». Bon mince, je dis les dames. Bon, ce n'est pas du féminisme, hein. C'est juste la constatation d'une réalité. Il y a peu d'hommes. Mais voilà, courage, ce n'est pas parce qu'un enfant ne manifeste pas une grande dévotion au moment de sa communion que le Seigneur ne le touche pas et n'avance pas peu à peu dans son cœur. Alors, mais en même temps, c'est un peu commun de dire ça en ce moment, mais bon, voilà, elle développe un goût pour l'oraison dans la nature et dans la chambre de son arrière-grand-mère. L'arrière-grand-mère avait vécu avec elle. Elle était restée très pieuse. C'était une femme qui était devenue sénile, mais qui priait tout le temps. Et vous savez, les enfants aiment bien aller chez les personnes âgées parce qu'il y a quelque chose, une relation entre les arrière-grands-parents et les petits-enfants, entre les grands-parents et les petits-enfants. Et Émilie, elle était très touchée par cette femme qui avait un côté enfantin parce qu'elle était sénile et qui était... en même temps, toute tournée vers Dieu. Bon, alors elle y va, elle découvre ça, elle découvre cette oraison, elle découvre, c'est très beau, mais en même temps, la piété, c'est pas son truc quotidien, quoi. Elle fait ce qu'on lui demande, parce qu'elle est bien élevée, mais elle aime bien les toilettes, elle aime bien les sorties, c'est une jeune fille de son temps, et... elle n'est pas insensible non plus à tout ce qu'on lui dit, aux compliments. Mais l'éducation de ses parents est quand même extrêmement rigoureuse. Elle a laissé sa grand-mère pour rejoindre ses parents, et là, c'est un peu difficile. On pourrait dire que c'est en fait une espèce de dépression qu'elle vit. Elle vit ça, et que font les parents? Ben, ils lui recommandent les promenades à cheval en pleine nature. Bon, ça la guérit. Elle est en contact avec la nature et je vous disais qu'elle développait un sens de l'oraison dans la nature. Eh bien voilà. Mais rien, rien ne disposait ou ne prédisposait Émilie avec une vie avec Dieu. Elle négligeait la confession, la communion, bon. Et ses parents la laissaient extrêmement libre dans ce domaine. Ça aussi, c'est très novateur à l'époque. Elle n'était pas obligée de se rendre à la messe, elle n'était pas obligée. Il y avait des valeurs qu'il ne fallait pas transgresser. Mais pour ce qui est du domaine de la foi, je vous disais, son père n'était pas branché, elle était assez libre. Mais le problème, c'est que lorsque Dieu choisit une âme, il sait frapper à la porte au moment opportun. Et ce moment opportun, c'est à la fête Dieu, en 1804. Elle a 17 ans. Elle rencontre un prêtre, elle se confesse, et là, c'est un coup de tonnerre spirituel. Elles goûtent avec délice la Sainte Eucharistie. Elles voient le chemin de croix, la méditation. Elles aiment tout ce qui leur rapproche de Dieu. Et là, elles commencent une vie de mortification. Alors, c'est assez étrange, après avoir connu tous les mouvements de l'adolescence, etc., les joies de cette époque, de ces moments-là. Là, elle se retranche, je dirais peut-être de façon un petit peu violente, dans l'autre domaine. Mais Sainte Thérèse nous a montré un autre chemin. Hein. Mais Émilie, elle choisit la mortification. Elle fait le chemin de croix en plein hiver. Elle va visiter une lépreuse. Elle médite sans cesse la vie de Jésus et de Marie. Elle a 17 ans et demi. Non, voilà. Et elle quitte ses parents pour retourner à Villefranche chez sa grand-mère et sa tante. Alors, sa grand-mère et sa tante étaient parties chez une dame qui s'appelle Madame Saint-Cyr, qui avait une grande maison où elle recueillait, elle avait recueilli différentes religieuses qui avaient été chassées de leur couvent par la Révolution. Vous rappelez ce marasme qu'il y a eu au niveau de toutes les communautés. Eh bien, Madame Saint-Cyr accueillait ces femmes. Et la grand-mère d'Émilie et sa tante étaient allées dans cette maison. Là, Émilie rencontre un directeur spirituel, l'abbé Marty. Lui, en priant, en parlant avec elle, il sent chez cette femme des dispositions intérieures et il voit le chemin que Dieu lui fait prendre. Il lui propose du coup de communier régulièrement. On a vu ça. Hein, on a vu ça déjà chez d'autres femmes, au cours de l'histoire que j'ai racontée d'autres femmes, combien il était peu fréquent, mais combien les hommes de Dieu qui ont su déceler des âmes de prédilection sont inspirés et ont su leur proposer à ces âmes, à ces femmes, la communion régulière. Et ça change la vie. Et c'est pour ça que nous qui sommes en ce moment privé de cette communion, eh bien, je crois qu'il faut qu'on médite sur la valeur de ce cadeau que Dieu nous fait quand il se donne à nous sous la forme de l'hostie. Merci Seigneur. Voilà. Bon. Alors, tout ça se passe bien. Elle est contente. Elle aime lire les psaumes. Elle les apprend par cœur. Elle continue à être gratifiée de grâces particulières dans ses temps d'oraison. Ça aussi, c'est quelque chose d'extraordinaire chez toutes ces femmes, c'est qu'il y a une telle proximité du ciel que le ciel donne ce qu'il y a là-haut, quoi. Alors, Émilie ne veut pas rester comme ça. Elle veut rentrer au couvent. Mais vous savez, les dames de Saint-Cyr pensent que sa piété ne va pas durer. Elle est jeune, elle est encore elle est fervente, mais elle est immature. Elle manque cruellement de gaieté. Et je pense qu'elle manquait de gaieté parce qu'elle s'était rendue compte de ce qu'elle avait fait souffrir Dieu en ne suivant pas le chemin. C'est ce qu'elle pense. Hein. Alors, Madame Saint-Cyr la charge de donner des leçons de catéchisme aux enfants de l'établissement. Et elle est ravie de faire ça. Et elle est si remplie de Dieu, si pénétrée de la vie de Marie, qu'il y a des dames qui viennent l'écouter. Elle enseignait comme elle avait été formée, sans punition, sans dureté, avec amour, avec beaucoup d'amour, pour tous les enfants. Pour tous les enfants, elle est, je dirais, comme une maman. Et à travers cet amour, elle faisait prendre conscience de l'amour du Christ et de la puissance des sacrements. Mais comme elle avait été éduquée comme ça, elle le fait aussi, elle fait prendre conscience des fautes qu'on commet et qui font tellement de peine à Jésus. Alors, son secret, ce n'est pas mystérieux, c'est l'exemple. Pour demander la vertu, il faut être soi-même vertueux. Après, ce n'est que de l'imitation. C'est ce qu'elle dit. Bon, à bon entendeur, si j'ose dire, à moi-même, bien sûr. Alors, Émilie, elle cherche où aller. Le père, son père spirituel l'a fait attendre parce qu'il ne voit pas où la mettre. Mais cette épreuve de l'attente dure 4 ans. C'est long, hein, 4 ans. Mais elle accepte, elle reste à Saint-Cyr pendant 4 ans, elle fait ce qu'on lui demande, elle se ravit de s'occuper des enfants. Et puis, il l'envoie à Figeac, à la congrégation des Dames de Nevers. Je vous ai dit, hein, le nombre de congrégations de sœurs, c'est énorme. Mais à peine arrivée dans le couvent, elle vit une nuit totale. Totale, qui dure un mois. Elle parle son père spirituel, il lui dit « Terminé, vous quittez immédiatement le couvent. Retour à Villefranche, chez Madame Saint-Cyr. Vous imaginez le lot d'humiliation. C'est terrible. Les femmes qui disaient qu'elle n'était pas capable, etc. Et bien là, sans méchanceté, hein, je ne pense pas qu'il y ait eu de la méchanceté. Mais on se dit, ben, voyez, j'avais raison, elle n'est pas capable. Bon. Nouvel essai, chez les Dames du Saint-Sacrement de Picpus à Cahors. Elle y est accueillie à bras ouverts. Elle voit des femmes extrêmement pieuses, mais son confesseur la rappelle encore. Nouvel essai, à la demande de la supérieure des Sœurs de la Miséricorde de Moissac, nouvelle catastrophique expérience. La nuit, elle est renvoyée, retour chez Madame Saint-Cyr. Là, elle exprime son chagrin et elle dit « Je veux m'occuper de celles dont on ne s'occupe jamais, les petites filles pauvres. Je veux, mais Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux de moi? Mais qu'est-ce que tu veux de moi ?» Elle est mal, elle est désespérée. Elle est en butte aussi à l'incompréhension des autres. Et c'est alors que se produit un petit événement qui met le feu à l'assemblage. Émilie, vous savez, elle visitait des malades. Au cours d'une de ces visites, elle se retrouve avec plusieurs femmes qui sont venues secourir celles qui souffraient et qu'elle visitait. Vous savez ce que c'est? Quand il y a plusieurs personnes autour, on discute, on parle, on dit « Ah, ça va, comment ça va mieux et tout, et comment ça avance, la maladie, blablabla. » Et dans ces moments d'échange, ces pauvres femmes, car c'était des pauvres femmes, se lamentaient sur l'ignorance de leurs enfants. Et elles disaient « Mais comme c'est difficile, nous n'avons pas d'argent, nous ne pouvons pas leur offrir l'école. » Et là, une des dames dit « Oh, au moins, avant la Révolution, les Ursulines enseignaient gratuitement. Nous, nous avons été instruites par elles, mais nos enfants. » Et c'est un coup de poignard dans le cœur d'Émilie. C'en est trop. Ça n'est pas possible. Elle reçoit ça comme une flèche d'amour et elle dit sur le champ « Envoyez-moi vos filles, je les instruirai. » C'est pas le trait de l'Esprit-Saint, ça ? C'est d'autant plus le trait de l'Esprit-Saint qu'au même moment, son confesseur recevait en son cœur la nécessité de fonder une association pour les jeunes filles qui n'étaient pas enseignées, les petites filles qui n'étaient pas enseignées. Alors, le problème, il n'y a pas de locaux. Et elle a dit aux dames d'envoyer les filles. Bon, c'est pas grave, elle a sa chambre. Et puis, elle demande l'autorisation à Madame Saint-Cyr de mettre les filles dans sa chambre pour les enseigner. Le problème, c'est qu'elle en a 40 qui arrivent. Ah, ça nous fait un peu rêver hein, quand on fait le catéchisme. 40 enfants qui sont avides de connaître la parole de Dieu, avides d'apprendre des leçons, avides d'apprendre à écrire, à lire. Moi, je trouve ça merveilleux. Hein. Ça doit nous donner beaucoup, beaucoup de courage. Et puis, petit à petit, parce que vous voyez, ça ne se fait pas comme ça, mais bon, on va vite. Le projet prend corps. Et 3 autres jeunes femmes qui sont, comme Émilie, désireuses de s'occuper de ces petites filles, arrivent et elles rentrent avec les 2 fondateurs, donc avec le père spirituel d'Émilie et Émilie, dans ce désir, dans ce mouvement, cette pulsion de fonder pour les filles. Madame Saint-Cyr acquiesce à ce projet. Mais vous commencez, vous savez bien, les autres dames ne sont pas d'accord. À commencer par la grand-mère d'Émilie, qui trouve que c'est prématuré, qu'elle n'est pas capable, que ce n'est pas possible, etc. Mais ce que femme veut, Dieu le veut. Ce n'est pas dans l'Évangile, hein, c'est juste une constatation. Et la Providence leur fournit, par la personne d'une ancienne pensionnaire, une maison. Alors, elle est froide, mal éclairée, malsaine. Mais vous vous rappelez des autres fondatrices, c'est la joie. La joie, elles ont leur maison. Les bonnes dames de Madame Saint-Cyr, elles ne demandaient pas de faire échouer cette entreprise. Parce que non, mais elles ont mis bien des bâtons dans les roues, hein, je vous assure. Vous savez que les femmes dans ce domaine, elles sont assez malines. Hein. Bon, on ne fait pas confiance aux jeunes. Surtout quand ceux-ci sont remplis du Saint-Esprit. Et donc, un petit peu allumés par le feu de l'esprit, bien sûr. Mais quand même, c'est gênant. Les convenances, les ceci, les cela. Nous, dans notre congrégation, blablabla. C'est pas grave. Le 30 avril, c'est l'installation avec une grande joie. La joie d'avoir tout quitté pour Dieu, pour son amour. Le 3 mai, c'est l'ouverture de la première classe. Vous vous rendez compte? C'est l'arrivée des orphelines. Mais ces orphelines, il fallait les loger. Il n'y avait pas de place. Tant pis, c'est pas grave. On improvise, on se fait prêter des lits, on trouve des choses et les petites filles dorment dans les chambres des sœurs. Les vêtements des sœurs sont extrêmement pauvres, extrêmement simples. Et comme elles ne peuvent pas observer de clôture, elles sont obligées, l'évêque ne s'était toujours pas prononcé, elles doivent aller à la messe et pour aller à la messe, elles doivent quitter leur petite maison. Elles sont affublées de ce qu'elles trouvent. Alors les gens se moquent d'elles. Les quolibets fusent de la part de ceux qui ne comprennent rien à rien. Et vous savez, tout ce mouvement qu'il y a eu anticlérical, anti-religieux, a bien pris naissance chez les gens, malheureusement. Mais les pauvres, eux, s'y retrouvent. Alors, ils ramassent des fagots pour chauffer. Quelques bonnes âmes les aident un peu. Mais elles accueillent beaucoup, beaucoup de filles, beaucoup de pensionnaires. Alors, elles ont créé quelques classes où il fallait payer un petit peu. Mais les gens n'avaient pas beaucoup d'argent. Alors, ils payaient la première fois, puis après, elles laissaient les comptes parce qu'ils avaient des difficultés. Elles connaissent des moments très, très rudes financièrement. Mais comme c'est une œuvre voulue par le bon Dieu, il n'abandonne pas ses enfants. Et à chaque fois que le manque est cruel, eh bien, une bonne âme arrive avec le secours nécessaire. Enfin, bon, vous savez bien que comme toute fondation, c'est pas idyllique, loin de là, qu'il y a beaucoup, beaucoup de péripéties, beaucoup, beaucoup de tourments, beaucoup, beaucoup de choses lourdes. Mais la chapelle voit le jour, au milieu des blâmes, au milieu des critiques, du monde, bien sûr, et même de certains membres de l'Église. Mais bon, je voulais dire, ça aussi, c'est normal. C'est bon signe, ça veut dire qu'on prend le bon chemin. Et puis bon, comme ça se forme et que c'est quelque chose que le bon Dieu veut et qu'il y a beaucoup de gens qui viennent, tout devient trop petit. Et quand on est avec notre Seigneur, et ben, c'est la démesure de l'amour. Alors, il faut déménager. Et là aussi, ça tombe bien. La maison de Madame Saint-Cyr a fermé. On peut la prendre. C'est génial. Bon, je vous passe là les problèmes financiers. Et là encore, c'est par Providence qui, je le dis, a un nom. C'est Monsieur Grimal. Parce que c'est important de dire, c'est la Providence. La Providence a toujours un nom. C'est toujours quelqu'un qui vient. Alors, je cite ce monsieur Grimal, qui a été un donateur et qui fait que tout peut être racheté. Parce que sans ces gens qui sont effectivement là pour aider, il n'y aurait rien. Hein. Alors, le couvent des Cordeliers a été acheté et c'est toujours la même histoire. Vous savez, les révolutionnaires avaient chassé les moines, les couvents, la chapelle était devenue des cafés, des écuries. Enfin, vous voyez bien, hein, malheureusement, on voit maintenant nos chapelles devenir des boîtes de nuit. Bon, les sœurs, en ayant retrouvé ce couvent, leur redonnent une vocation première. À quand nous? Quand est-ce qu'on va se réveiller pour faire ça, hein? Mais c'est à ce moment-là où tout semble aller pour le mieux, que le malin agite la queue et que elles vivent des choses extrêmement douloureuses, puisqu'aussi bien de jeunes sœurs que des orphelines meurent. Et Émilie dit, tous les mois, nous avions une personne à pleurer. C'est aussi à ce moment-là que le combat spirituel s'intensifie et qu'il dure durant 32 ans. Émilie croit perdre la foi. Elle se sent loin de tout. Elle est envahie de tristesse. Elle perd toutes sortes d'espérances. Elle se croit abandonnée par Dieu. Elle met en doute l'humanité de Jésus. Elle redoute tout ce qui est divin. Les paroles de son confesseur, elle les reçoit à l'envers. Elle ne trouve aucun réconfort. Je vous dis, c'est une sainte qu'il nous faut parce que c'est vraiment un carême. C'est un carême extraordinaire. Et je crois que ça fait écho à des choses qu'on vit. Pas avec son intensité, pas aussi longtemps. Mais vous voyez, elle s'effraie de tout. C'est la nuit terrible de la foi que beaucoup de grands saints connaissent. Et cette nuit cruelle, il n'est aucun recours, aucun appui pour la remonter. Elle en arrivait même à penser qu'elle était incapable d'aimer ce qui l'entourait. Elle vit un combat effrayant. Tout bien devient mal, toute joie devient tristesse, tout réconfort est un dard de l'adversaire, à tel point qu'elle faisait des reproches à Dieu et s'éloignait considérablement de lui. Tout est vu par le prisme de l'adversaire, de la désespérance. C'est terrible hein, ce que ces saints endurent dans les nuits de la foi. Et cette souffrance du rejet, du dégoût, ces fêtes solennelles qui devenaient des punitions, la joie de l'Église qui l'acclablait, elle se croyait vaincue, elle pensait être au service du démon, cette impossibilité de voir clair dans sa vie, elle était anéantie. Et pourtant, elle menait sa barque comme si rien n'était. Elle continuait. C'est dans cette nuit qu'elle fait ses vœux perpétuels. C'est dans cette nuit qu'elle fait tout par obéissance à son confesseur. Je vous disais, il y avait eu beaucoup de décès, donc les gens ont enlevé des enfants. Elle supporte, elle est là, elle supporte tout ça. À ce moment-là, elle a un gros problème de santé, on lui parle de cancer, on l'opère. Enfin bon, vous rappelez Elisabeth Bichet, il n'y a pas d'anesthésie. Donc elle serre le crucifix. Ce n'est pas ce qu'il nous est demandé. Hein. Le bon Dieu ne nous demande pas de souffrir comme ça. Mais après, ce sont des fièvres qui se succèdent. Et à chaque fois qu'elle est malade, elle fonde. À chaque fois qu'elle est dans la nuit, elle fonde. Au moment de la fondation, elle a une espèce de lueur. La nuit la quitte. Et dès que la fondation est achevée, enfin est faite, hop, ça repart. Elle fonde, elle attend, elle attend, elle attend. Et comme elle voulait, par exemple, c'est très drôle, elle voulait un établissement de carmélite à Villefranche, alors elle dresse un oratoire à Sainte Thérèse et elle lui demande cette grâce. Bon, elle trouve que Sainte Thérèse n'agit pas très vite. Donc à chaque fois qu'elle passe, et elle passe souvent, elle se gronde, elle la gronde. Elle lui dit, bon, ben, c'est pas possible, quand est-ce que vous allez faire les choses, c'est pas possible. Bon, c'est très drôle, ça, je trouve que c'est sympa parce qu'il y a une façon de vivre avec les saints, d'en faire des alliés qui est extraordinaire. Alors, elle établit un noviciat à part. Bon, bref, il faut que j'aille très vite parce que j'ai plus beaucoup de temps et que j'aurai encore beaucoup de choses à dire. Mais alors, on l'appelle pour fonder. Elle fonde à Figeac. Elle ne veut pas y aller. Elle est opposée à ce voyage, mais son confesseur lui demande d'y aller. Et là, c'est terrible. Tout le monde est contre elle. Elle dit, mais mon Dieu, dirigez mes pas de telle sorte qu'ils tendent tous à l'observation de vos préceptes. Et hop là, elle avance. Dans l'opposition totale de cette fondation, elle avance. Et quand c'est fait, tout le monde se rend à l'évidence, c'est une belle œuvre. Tout le monde, c'est-à-dire surtout le clergé de Figeac. Les fondations se succèdent. L'Institut de la Sainte Famille s'installe dans plusieurs endroits. Et sa devise, c'était pourvu que l'on se sauve. Émilie, c'était une femme d'une très grande simplicité, qui aimait à dire que la simplicité était sa vertu principale. On a vu qu'elle a vécu des épreuves très douloureuses dans la tentation, et c'est, je vous dis, la sainte du carême. Hein. Elle pensait ne pas aimer Dieu, elle pensait ne pas faire. Mais alors, elle lisait les psaumes, je ne peux même pas vous lire quoi que ce soit, mais regardez-les, ces deux psaumes favoris, c'était le 118 et le 144. Elle rendait grâce à Dieu, elle faisait et elle les connaissait par cœur. Elle récitait ses psaumes tout au long. C'était un remède pour lutter contre la douleur perpétuelle, spirituelle et physique qu'elle vivait. Et elle disait, il ne m'arrivera que ce que Dieu voudra. Alors, bien sûr, tout ça s'accompagne de miracles, vous savez. Nous sommes habitués avec ces femmes d'exception. L'argent qui arrive en temps utile, la nourriture qui se multiplie, même l'huile bénite de Saint-Germain-de-Pibrac, c'était vide, ça se remplit encore une fois. Bon, elle livre sa vie intérieure à son confesseur et là, elle vit quelque temps de paix et puis elle meurt. Elle va retourner vers le bon Dieu. Vous pensez que quand elle meurt, c'est la sainte est morte, etc. Alors, comme pour les autres, des miracles, des conversions, des tas de choses. À sa mort, 36 maisons. En 1901, 200 maisons. Mais vous vous rappelez, on a parlé de cette persécution religieuse qui a eu lieu en France. Mais il y a 40 fondations dans des pays étrangers. Aujourd'hui, l'ordre de la Congrégation de la Sainte Famille compte 850 religieuses dans le monde. Bon, alors pourquoi la prier? Pourquoi la prier maintenant? Parce qu'elle a connu une telle aridité, un tel désert, croyant tout de travers, qu'elle est une sainte pour nous en ce temps de carême. Elle sait ce que c'est que d'être séparée de Dieu. Elle sait ce que c'est que d'avoir des doutes, de se faire gronder. Jamais elle n'a quitté la pensée de Dieu. Ce que Dieu lui demandait, elle lui obéissait simplement. Alors, on peut la prier pour nos vies spirituelles, pour nos chemins tortueux. On peut l'implorer pour nos écoles et nos hôpitaux, surtout en ce moment. Vous savez, toutes ces femmes dont je vous parle, on peut toutes les mettre au travail. On doit toutes demander leur intercession pour notre pays, parce qu'elles agiront, je vous assure. Elles sont toutes tellement sensibles au malheur du monde. Voilà. Eh bien, à bientôt.
À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.